BFM Business présente Les Experts sans frontières. Guillaume Paul.
Il est 18h, soyez les bienvenus dans les Experts sans frontières, car oui, nous sommes vendredi, serons là dans quelques minutes, nos Experts sans frontières, pour parler de l'actualité internationale, qui est très riche, bien sûr, avec ce sommet de Munich qui a débuté à quelques heures, au cours duquel va peut-être se jouer, allez, au moins le début de l'avenir de l'Ukraine. On va largement en parler ensemble, bien sûr, jusqu'à 19h. On va aussi parler de Donald Trump, qui fait tapis, comme on dit, sur le plan commercial, lui qui a décrété hier les droits de douane réciproques avec le reste du monde. En gros, je vous traiterai comme vous me traitez, on en reparlera. Et puis on dira un mot, parce que ça a été quand même un des temps forts de cette semaine, de ce sommet de l'IA à Paris lundi et mardi dernier. Est-ce que la France et l'Europe, par extension, ont marqué ou pas des points face à la concurrence, notamment des États-Unis et de la Chine, dans ce domaine? Voilà les Experts sans frontières, voilà le programme dans quelques minutes. Tout de suite, c'est le journal.
BFM Business, l'info éco.
Donc ce sommet de Munich vers lequel tous les regards sont tournés, bien sûr, déjà beaucoup de déclarations, notamment celle il y a quelques heures de J.D. Vance, le vice-président américain, qui s'est employé, ou qui au moins s'est efforcé de rassurer les Européens. Ils ont leur place dans d'éventuelles futures négociations sur l'Ukraine. Il a aussi mis, cela dit, ces mêmes Européens devant leurs responsabilités. Écoutez.
Nous allons bien sûr parler du conflit entre l'Ukraine et la Russie pour parvenir à un accord négocié. Nous parlerons aussi d'autres domaines de coopération. Mon point de vue est que l'Europe est un allié très important pour les États-Unis. Je pense aussi que l'OTAN est une alliance militaire très importante, mais nous voulons nous assurer qu'elle est réellement construite pour l'avenir. Pour prouver cela, l'OTAN doit en faire plus en partageant le fardeau en Europe afin que les États-Unis puissent se concentrer sur nos défis en Asie de l'Est.
Voilà, permettre aux États-Unis de se concentrer sur les menaces dans le reste du monde. J.D. Vance, qui avait quelques heures plus tôt dans la presse anglo-saxonne indiqué que Washington était prête à faire pression sur la Russie dans le cadre des discussions justement sur l'Ukraine. Le vice-président américain qui doit par ailleurs rencontrer Volodymyr Zelensky, qui lui s'est déjà exprimé tout à l'heure depuis Munich, pour dire quoi ? Que Kiev négocierait avec la Russie seulement une fois qu'il aurait déterminé une position commune avec tous les Occidentaux. Écoutez.
Nous sommes prêts à discuter avec l'Amérique et nos alliés. S'ils nous fournissent des réponses spécifiques à nos demandes spécifiques et une compréhension commune du danger Poutine, alors avec cette position unifiée, nous serons prêts à parler avec les Russes.
À Volodymyr Zelensky tout à l'heure du côté de Munich, sommet de Munich, dont on parlera largement avec nos Experts sans frontières dans quelques minutes sur BFM Business. 18h02, pendant ce temps, Donald Trump, qui continue donc de dérouler sa stratégie commerciale. Vous savez qu'il a franchi hier une nouvelle étape en annonçant des droits de douane réciproques avec le reste du monde. Autrement dit, les pays seront taxés sur la même base que les droits qu'ils appliquent aux produits américains. Ça a beaucoup fait réagir, cela dit, tout le monde ne s'insurge pas. Il y a même certains pays qui clairement essaye de jouer la carte de la diplomatie avec Trump pour éviter la sanction suprême. Johan Delera nous raconte ça.
Un excédent commercial de 45 milliards de dollars avec les États-Unis l'an dernier, l'Inde est dans le viseur de Donald Trump. Pour éviter l'escalade douanière, le Premier ministre Narendra Modi a déjà baissé en prévision certaines taxes visant Washington. Hier à la Maison-Blanche, il a rencontré le président américain pour prouver sa volonté de coopération. Une carte de l'amitié abattue aussi par le Royaume-Uni, qui se présente comme l'allié le plus proche des États-Unis. Pas question pour lui d'augmenter les droits de douane sur les produits américains. Même posture pour l'Australie, pour le moment exemptée de tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Le Japon a également réussi son opération séduction la semaine dernière. Son premier ministre a rencontré Donald Trump à Washington pour annoncer de nouveaux partenariats économiques entre les deux pays. Enfin, Taïwan essaie de parer les menaces américaines d'imposer des droits de douane sur ses semi-conducteurs. Le président taïwanais a promis aujourd'hui d'investir davantage aux États-Unis. Objectif, réduire son excédent commercial avec Washington, estimé à 65 milliards de dollars l'an dernier.
Voilà, ces pays qui essaient de faire la diplomatie de la poignée de main, comme on se dit avec Donald Trump. Ça aussi, on en parlera avec nos experts tout à l'heure sur BFM Business. 18h04 dans l'actualité également ce soir. On voulait vous parler de cet appel lancé dans la presse anglo-saxonne aujourd'hui par une grosse vingtaine de très grands fonds de pension. Ils le disent, il y a cette envie chez certains, c'est un peu dans l'air du temps, de relâcher les efforts sur les enjeux climatiques. C'est vraiment, disent-ils, la dernière chose à faire. Caroline Morisseau.
Les enjeux climatiques survivront à Donald Trump. C'est en substance le message des fonds de pension, 26 grosses institutions financières américaines, britanniques ou encore australiennes qui gèrent 1500 milliards de dollars ont rappelé à l'ordre les gestionnaires d'actifs. Elles les exhortent à ne surtout pas céder au discours de Donald Trump, à l'image de nombreux gestionnaires, BlackRock en tête, qui sont revenus sur leurs objectifs climatiques. People's Partnership, l'un des plus gros fonds de pension au Royaume-Uni, se dit préoccupé à l'idée que certains fassent marche arrière. Les arguments financiers en faveur du changement climatique dépassent les défis politiques à court terme, alerte l'un de ses responsables. Tous soulignent que sont des investisseurs de long terme qui doivent assurer le versement des pensions de retraite sur plusieurs décennies. Ces fonds de pension rappellent leurs exigences et si elles ne sont pas respectées, ils menacent de dégrader la notation, voire d'exclure certains gestionnaires d'actifs.
Caroline Morisseau est justement illustration de cette tendance dans l'air du temps de relâcher la pression. Alors sur le climat, mais aussi sur les questions RSE au sens large. C'est le cabinet de conseil Accenture qui a annoncé il y a quelques jours qu'il renonçait à tous ses engagements en ce qui concerne la diversité, l'inclusion et l'équité au plan mondial. C'est clairement une décision impulsée par un décret de Donald Trump. Est-ce que ça pourrait, c'est la question qu'on pose, avoir une incidence sur la filiale française et sur la profession en France? On voit tout ça avec Mathilde Chaminade.
Les syndicats de la filiale française d'Accenture sont préoccupés. La patronne du géant du conseil vient d'annoncer mettre un terme aux objectifs de diversité, et cela dans le monde entier. Pas question de reculer sur les politiques de diversité en France, rétorque un représentant de la CFDT d'Accenture France. Indépendamment du contexte américain, le syndicat assure que l'entreprise continuera à produire un index femmes-hommes et à mesurer la représentativité des femmes au poste de direction, des obligations légales. L'entreprise devrait aussi maintenir des initiatives telles que le mois du handicap. La question divise, en tout cas dans le secteur du conseil. Deloitte a mis un terme à ses efforts de diversité aux États-Unis, mais du côté de la filiale française, on ne se considère pas concerné par ce sujet américain, nous dit-on. Bain et PwC prévoient également de maintenir leur politique de diversité en France. La question, enfin, ne se pose même pas chez McKinsey France. Le patron monde du cabinet vient justement de réaffirmer l'engagement du groupe en matière de diversité pour toutes les filiales, y compris aux US. C'est ce qui fait la force, dit-il, du cabinet depuis un siècle.
Mathilde Chaminade, dans l'actualité des entreprises, toujours Vinci et Bouygues, les actuels concessionnaires du Stade de France, ne lâchent pas l'affaire. Vous savez que l'État avait annoncé en décembre avoir choisi Gilles Evans pour leur succéder à partir d'août prochain. Les deux groupes avaient déposé un recours devant le tribunal administratif qui avait été rejeté. Ils viennent de saisir, cette fois, le Conseil d'État. Vinci et Bouygues considèrent depuis le début qu'il y a eu inégalité de traitement entre les candidats dans ce dossier. Et puis, côté entreprise, encore des résultats qui sont tombés aujourd'hui. Belle année 2024 pour Safran, dont le bénéfice net ajusté a gagné 51% par rapport à 2023. Écoutez le DG Olivier Andriès, évidemment très satisfait.
Nous en sommes très très fiers que l'année 2024 a vu un rétablissement de la performance de nos activités d'intérieur d'avion et notamment de sièges qui ont atteint leur point d'équilibre. C'est une activité qui a beaucoup souffert après la crise du Covid et qui a été en perte depuis 2020. Et nous sommes revenus à l'équilibre en 2024 et donc nous sommes maintenant en route vers un objectif d'atteindre une profitabilité à deux chiffres d'ici 2028. Donc ça va se faire progressivement.
Voilà Olivier Andriès, le directeur général de Safran, interrogé par BFM Business aujourd'hui. Puis ça a été une belle année. Bonsoir Antoine, pour Hermès.
Bonsoir Guillaume.
Année record, donc à contre-courant de l'ensemble du secteur, bénéfice net en hausse de 6,8%, 4,6 milliards d'euros. Ils sont insubmersibles chez Hermès.
Insubmersibles, c'est l'exception au sein du secteur du luxe. Et c'est vrai que on a un chiffre d'affaires qui est au-dessus des attentes, une rentabilité qui est au-dessous des attentes. On a également énormément de cash qui leur permet d'investir. Alors pourquoi pas dans la haute couture? Ça faisait quelques mois qu'on les soupçonnait de préparer quelque chose à ce niveau-là. Puis ça a été confirmé lors du conference call. Pourquoi pas une expérience dans la haute couture? C'est pas les bons designers qui manquent sur le marché et qui pourraient aider Hermès, qui a déjà une très grande expérience dans le prêt-à-porter de grand luxe, avec les cuirs, mais aussi avec la soie, avec tout un tas d'autres matériaux. Bon, ils sont très très forts là-dessus. Et malgré tout, c'est pas l'explosion en bourse. On a vu que le titre avait pris 0,8%. On est sur des plus hauts historiques, à 2839 points, ce qui vraiment place Hermès sur le dessus du panier du secteur du luxe, ce qui au final confirme son statut d'exceptionnel dans l'exceptionnel.
On va écouter justement Axel Dumas qui a confirmé effectivement ces bruits ces dernières semaines, ces derniers mois autour de la haute couture. Oui, on silence. Il le confirme, le gérant Axel Demas. Écoutez.
C'est sorti d'une interview que j'ai eu le plaisir de faire. Est-ce qu'on y pensait stratégiquement ou pas, je ne suis pas sûr. Une fois qu'on l'a dit, on a trouvé ça sympa. Très honnêtement, je pensais que les équipes allaient me disputer en disant hey, qu'est-ce qu'il a encore dit le cher gérant. Ils m'ont dit oh bah oui, très sympa, on y pense depuis longtemps. Voilà. Évidemment, qu'est-ce qui nous intéresse dans la haute couture, c'est le savoir-faire. On a déjà un niveau très très élevé et une qualité de cuir incroyable. Et on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Qu'est-ce que ça nous apportera. Ce qui est sûr, c'est que ça nous apportera des ennuis. Hein, et puis espérons que ça nous apporte aussi du plaisir et de la chose. Voilà. Donc en fait, maintenant, je suis très excité sur la haute couture. On verra ce que ça donne, mais je trouve ça très sympa. Et d'autant plus quand c'est pas arrivé par de la stratégie ou du marketing et qu'on s'est juste dit, eh ben, why not.
Voilà, Axel Dubois. Bon, ça peut lui apporter aussi des ennuis. Oui, ça va lui apporter des ennuis, mais enfin, est-ce qu'il y a vraiment des débuts? Oui.
Des ennuis. Enfin, quand on a le niveau de cash d'Hermès, quand on a une marge opérationnelle qui est en léger recul sur un an, elle passe de 42% à 40%. Oh là là, mon Dieu. Non, mais.
C'est tout simplement.
Mais ce qui est très intéressant dans ce qu'il dit, et c'est important quand on est une exception dans le domaine du luxe, c'est-à-dire qu'on est dans l'ultra-luxe, c'est quand il dit qu'il faut écouter ses envies. C'est pas issu d'une stratégie pesée, quantifiée. Non, c'est une envie, c'est quelque chose qui fait envie à l'ensemble du secteur concernant Hermès. Et puis voilà, ça SM gentiment dans la tête des dirigeants et ça peut être une dynamique de croissance assez étonnante.
Et en attendant, toutes les ventes sont en hausse dans toutes les régions, la Chine,
oui,
l'Amérique,
seul commentaire, c'est pas du jeu.
C'est limite pas du jeu.
Voilà, c'est
voilà pour Hermès. Alors la Chine, justement, on va en parler pour terminer ce journal. Vous savez que les autorités essaient de relancer la natalité dans le pays. Et donc, dans certaines collectivités, on a trouvé une astuce, une petite enveloppe pour celles et ceux qui se marient. Ça peut aider, c'est certain. Une petite ville du Nord, par exemple, qui propose un petit cadeau financier le jour du mariage et des aides sociales à la naissance du premier bébé, voire du deuxième. Reportage d'Alexandra Paget.
Il faudrait me payer pour me marier. Il vous est peut-être déjà arrivé d'entendre cette phrase. En Chine, c'est le cas. Venu enregistrer son union, un jeune couple pose tout sourire, les mains pleines de billets. 200 euros, une somme assez modeste, mais qui représente la moitié du salaire moyen à Luoyang. Zhuang Gang, le jeune marié, a sauté sur l'occasion.
Lorsque j'ai parlé de cette mesure à mes amis, ils ont tous trouvé ça très bien. Au départ, ils pensaient qu'il s'agissait d'une politique nationale, mais quand ils ont appris qu'elle n'était disponible qu'à Luoyang, ils ont tous voulu venir pour s'inscrire au registre des mariages.
Au bureau d'enregistrement des mariages de la ville, un flot ininterrompu de couples vient bénéficier de la prime, entrée en vigueur le 1er janvier, mais l'entremetteuse professionnelle Feng Juping, qui fait se rencontrer hommes et femmes jugés compatibles et dubitatives, la plupart de ses clients sont des femmes éduquées qui peuvent assurer elles-mêmes leur subsistance et n'ont pas besoin d'un mari moins diplômé qu'elle.
Le nombre d'hommes très instruits ayant un bon emploi est très faible. Ma liste compte environ 300 femmes titulaires d'une maîtrise, mais seulement une douzaine d'hommes titulaires d'une maîtrise.
Pas sûr que cette politique donne vraiment des résultats. Les jeunes Chinois sont de plus en plus réticents à convoler en raison du coût économique de l'éducation des enfants et d'un marché de l'emploi devenu plus difficile. Notamment pour les jeunes, le taux de chômage des 18-25 ans bat des records depuis 2 ans, autour des 20%.
Alexandra Paget, voilà, gros sujet évidemment, Antoine, la natalité pour nos amis chinois évidemment.
La natalité, la tech aussi. La high-tech. Alors on a vu que ça avait été une semaine absolument fabuleuse pour les Alibaba, les Tencent, BYD, etc. Les magnifiques de la tech chinoise sont vraiment de retour. Et alors attention, réunion à très haut niveau, gros symposium en début de semaine, sans doute lundi, avec Xi Jinping en personne, tous les patrons de ces grandes entreprises. Et figurez-vous que Jack Ma fait son grand retour. Alors ce retour en grâce de Jack Ma est particulièrement significatif. Si on veut essayer de spéculer, il ne serait pas impossible que Xi Jinping, au vu des performances de la high-tech chinoise et des enjeux de l'intelligence artificielle, veuille placer Jack Ma donc de retour en grâce, vu son expérience, à la tête d'une sorte de super pôle chinois qui serait chargé de partir à la conquête du monde avec ses meilleurs arguments.
Le Elon Musk chinois, c'est ce que vous dites entre les lignes ou
ouais, sauf que lui, il sera pas là pour tailler dans les budgets des administrations, sera là pour stimuler la croissance et fédérer ce pôle. Ça pourrait être un bon scénario.
Et ben on suivra ça en début de semaine, effectivement, ce grand symposium consacré à la tech en Chine. 18h14, les marchés. Bon, pas vraiment de tendance à la clôture ce soir, Antoine, à Paris. Hein.
Bah, quand même une hausse, hein. Plus 0,18%, 8178 points. Et Guillaume, 5 journées de hausse consécutive, donc semaine parfaite. 6 semaines consécutives de hausse du CAC 40. On est vraiment sur une pente très très intéressante. Et puis on est à un petit peu moins d'une centaine de points de notre dernier record historique qui date du printemps dernier. Bon, la high-tech européenne qui était bien orientée aussi avec un Euronext Tech Leaders qui gagne 0,79%, et on arrive à surperformer largement l'Eurostock 50 qui lui a terminé sur une baisse de 0,13% et moins 0,44% pour le DAX à Francfort. Plus forte hausse du CAC 40, Téléperformance plus 2,5% à 102,50. On a parlé d'Hermès hein, qui termine sur une petite hausse, plus 0,82%, 2839 €, mais nouveau plus haut historique. ArcelorMittal, plus forte baisse à moins 1,7%, 27,22 €. La seule fausse note, c'est peut-être Valneva, moins 9,5% à 3,35 €. Mais enfin, vous me direz, Valneva, ça gagne.
C'est volatile. Hein.
Ça gagne 70% depuis le 1er janvier. Ben oui, ben ils ont un nouveau concurrent qui va lancer un vaccin contre le chikungunya. Oui. Et Valneva avait, alors pas une exclusivité, mais était très largement majoritaire là-dessus. Donc ça pourrait être une petite épine dans leur pied. Enfin, bon, encore une fois, on gagne 70% depuis début janvier. Plus 0,18 pour le CAC. Très beau volume aussi, quasiment 5 milliards d'euros d'actions négociées. Ça a vraiment encore été une séance très active. Et l'euro qui repasse le cap du dollar, 0,5. 1,0518, donc vous voyez les analyses qui nous donnaient la parité, voire moins à quelques mois en fin d'année dernière. Là, pour l'instant, ils sont plutôt perdants sur
la position. Pour l'instant, on n'y est pas. Merci Antoine. On regarde Wall Street, évidemment. C'est la mi-séance sur le marché américain. Le Dow Jones, moins 0,2%, 44 605. Le Nasdaq, de son côté, qui grappille 0,1%, 19 966 points. 18h16, nos experts sans frontières arrivent dans un instant. Intellectuel et actualité internationale très riche forcément ce vendredi avec le sommet de Munich. Entre autres, on en parle jusqu'à 19h. À tout de suite.
BFM Business présente Les experts sans frontières. Guillaume Paul.
Allez, 18h18, ils sont là comme tous les vendredis, nos experts sans frontières, évidemment, pour refaire l'actu de la semaine. Juan Rosé Dorado est avec nous. Bonsoir, Juan Rosé.
Buenas tardes.
Journaliste espagnol basé à Paris. Richard Verly, bonsoir.
Bonsoir.
Richard, correspondant du journal suisse Blick. À Paris, on poursuivre cette actualité internationale marquée par ce sommet de Munich, où tous les regards, vers lequel tous les regards sont tournés, déjà pas mal de déclarations. Vous avez entendu notamment J.D. Vance, qui, a essayé, enfin, s'était forcé d'essayer de rassurer un petit peu les Européens dans leur rôle futur à jouer, peut-être dans le dossier ukrainien. Bon, on va aller à Washington retrouver notre correspondant Benoît Balek qui est avec nous. Bonsoir Benoît. J.D. Vance qui a dit que les Européens auraient leur place dans cette négociation, mais qui a aussi mis les Européens devant certaines responsabilités pour l'avenir. Hein.
Oui, effectivement, un discours plutôt aux airs de sermon, hein, on va dire. Avec Donald Trump, voilà ce qu'a dit J.D. Vance, il y a un nouveau shérif en ville. C'est ce qu'a assuré le vice-président américain, qui a donc appelé l'Europe à renforcer ses capacités de défense pour permettre à Washington de se concentrer sur les menaces dans le reste du monde. Voilà ce qu'il a dit J.D. Vance. Nous pensons qu'il est important, dans le cadre d'une alliance commune, que les Européens renforcent leur défense pendant que l'Amérique se concentre sur les régions du monde qui sont en grand danger. Donc, extrait de son discours plus tôt ce matin lors de cette conférence de Munich sur la sécurité. Une chose importante, c'est que J.D. Vance n'a pas fait mention explicitement de l'Ukraine. Mais qu'il y a eu une interview qui a été donnée au Wall Street Journal, publiée cette nuit. Et dans cette interview, J.D. Vance déclare que les États-Unis frapperaient Moscou de sanctions et potentiellement d'une action militaire si le président russe Vladimir Poutine n'acceptait pas un accord de paix avec l'Ukraine qui garantissent l'indépendance à long terme de Kiev et que, chose également très importante, que l'option d'envoyer des troupes américaines en Ukraine si Moscou ne négociait pas de bonne foi restait sur la table. Une option qui avait été écartée hier hein, par Pete Hegseth, le chef du Pentagone depuis le sommet de l'OTAN à Bruxelles, le secrétaire américain à la défense, qui s'est à nouveau exprimé aujourd'hui depuis Varsovie, en Pologne, et il a estimé, lui, que l'Europe ne pouvait supposer que la présence de troupes américaines sur le continent durerait éternellement. On le comprend donc, les lieutenants de Donald Trump sont en train de souffler le chaud et le froid sur l'Union européenne pour évaluer les réponses de leurs alliés, voir comment ils pourraient tirer avantage de ces réponses en vue des négociations, en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine. Et d'ailleurs, vous savez, ces négociations ont commencé, on commence à discuter, puisque Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et J.D. Vance ont commencé à se parler. Une réunion a débuté à peu près il y a une trentaine de minutes à Munich, donc en Allemagne.
Merci Benoît, vous restez avec nous bien sûr sur BFM Business. Messieurs, je vais vous faire écouter effectivement ce qu'a dit Pictexès, le nouveau secrétaire à la Défense, qui effectivement a pris moins de gants pour exprimer ce que disait J.D. Vance ce matin. Écoutez.
Ce qui se passera dans 5, 10 ou 15 ans fait partie d'une discussion plus large qui reflète le niveau de menace, la posture de l'Amérique, nos besoins à travers le monde, mais surtout la capacité des pays européens à intensifier leurs efforts. C'est pourquoi notre message à nos alliés européens est si clair, c'est le moment d'investir, car on ne peut pas partir du principe que la présence américaine durera éternellement. Les membres de l'OTAN doivent dépenser et investir plus pour leur défense commune. Ce n'est pas une suggestion de la part des États-Unis, mais une demande directe à laquelle nous prêterons attention pour voir si l'Europe a la volonté de défendre sa base arrière.
Voilà, le secrétaire à la Défense, Pictexès, il y a quelques heures du côté de Varsovie. Est-ce que les Américains, là, en débarquant en Europe, savent exactement ce qu'ils veulent faire sur l'Ukraine en attendant de parler de l'avenir de l'Europe et de l'avenir de la défense européenne? Est-ce qu'ils sont au clair avec eux-mêmes sur ce coup-là, ou alors est-ce qu'ils lancent des...
Alors, je pense que l'administration Trump est au clair sur deux choses. La première chose, c'est qu'il faut que les combats s'arrêtent pour que Donald Trump dise « J'ai fait ce que j'ai promis, j'ai arrêté la guerre en Ukraine ».
Ouais.
Ça, il va falloir que les combats s'arrêtent. Donc, ils vont tout faire pour, soit en amadouant Poutine, soit en le menaçant de sanctions. Mais c'est un objectif. La deuxième chose, c'est que, vous avez compris, j'ai oublié la formule, mais c'est une demande directe à laquelle nous prêterons de l'attention.
Oui.
Ça veut dire que c'est un ordre. En gros, c'est un ordre donné aux alliés de l'OTAN. Vous devez dépenser plus, sous-entendu, acheter d'urgence du matériel militaire américain. Ça aussi, c'est un objectif que l'administration Trump ne va pas lâcher, parce que derrière, il y a des emplois, derrière, il y a la création de nouvelles usines, etc., etc. Donc, je crois que sur ces deux plans-là, l'administration Trump va foncer. La question du côté européen, alors, on reparlera de l'Ukraine, parce que, bien évidemment, la négociation va évoluer, mais pour les fournitures en armes, c'est qui va commander en premier, et est-ce qu'on va commander uniquement américain? Et là, la France, il faut bien le reconnaître, n'arrive pas à faire passer son message de commande d'abord européenne.
Oui.
Beaucoup de pays vont sans doute se ruer à Washington.
Juan José Dorado, comment vous voyez les choses?
Si on écoute Zelensky qui vient de déclarer effectivement qu'après avoir parlé avec Donald Trump n'a pas un plan clair de comment arrêter. Il sait ce qu'il veut faire, arrêter la guerre.
Mais que Trump lui a donné son numéro.
Voilà. Mais par contre, vous avez tout à fait raison, il a eu le téléphone de Donald Trump. Et donc, ça, c'est la première des choses, c'est qu'on assiste aussi à cette cacophonie entre le vice-président, le secrétaire d'État à la Défense, les déclarations intempestives de Donald Trump, et puis la cacophonie européenne, de la même manière, donc à Munich, où vous avez effectivement la présidente de la commission van der Leyen qui dit que peut-être il va falloir toucher la fiscalité actuelle pour donner des moyens justement aux pays.
Elle a dit aujourd'hui on réfléchit à assouplir les règles budgétaires pour permettre aux Européens d'investir plus. Vous voyez à quel point il faut en arriver pour qu'elle lance ce genre de phrase.
Et en même temps ce type de discours est quand même pour l'instant un peu vide de contenu, parce que comme vous voyez qu'il y a des pays qui sont très loin des dépenses en défense qu'ils avaient promis. Un tout petit exemple, là on commence à parler qu'effectivement on commence à nous exiger peut-être 3% de dépenses en matière de défense, et l'Espagne vient d'annoncer qu'elle arrivera à 2% en 2029 avec un tout peu de chance. Donc vous voyez, il y a une cacophonie générale. Je crois que personne ne sait pour l'instant comment faire pour arrêter cette guerre et pour qu'il n'y ait pas des perdants.
Je peux dire un petit mot, si vous voulez, sur le changement de politique entre Trump et Biden.
On vous entend. Benoît, vous êtes en direct avec nous, on vous écoute. Aucun problème, allez-y, Benoît.
Ah ouais. Non, je voulais réagir à ce que j'entendais. Effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir aussi, c'est dans la façon dont Donald Trump se compare différemment de Joe Biden. Alors effectivement, on savait qu'il allait avoir des différences entre ces deux chefs d'État, mais je trouve que d'abord il faut revenir avant-hier, ces deux coups de téléphone. Donald Trump appelle d'abord Vladimir Poutine. Il ressort de cet échange que d'après Donald Trump, les négociations peuvent immédiatement commencer, et ce n'est qu'ensuite que Donald Trump passe un coup de téléphone à Volodymyr Zelensky. Ça ne se produisait jamais quand c'était Joe Biden aux manettes. L'ancien président démocrate consultait d'abord toujours son allié ukrainien avant d'envoyer des messages au Kremlin qui allait revenir. Et puis, il y a cette rencontre qui va vraisemblablement avoir lieu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui a annoncé que ce serait en Arabie Saoudite avant que les chefs d'État se rendent visite dans leur pays respectif. Et puis cette dernière déclaration choque, comme Donald Trump en a l'habitude, et on sait qu'il aime ça. Il a expliqué aussi, le président américain, que c'était une erreur de faire sortir la Russie du G8 en 2014, au moment où la Russie envahit l'Ukraine et prend possession de la Crimée. Et donc je trouve que il faut aussi se rendre compte qu'il y a une vraie envie, un vrai besoin de Donald Trump de choquer, de repousser dans leur retranchement les alliés pour espérer ensuite négocier à son avantage.
Ce qui reboucle sur ce que vous disiez finalement, Richard, au début de cette interview, de cet entretien. Hein.
Oui, absolument. Alors, choquer les alliés, moi j'irai plus loin. Donald Trump veut des alliés aux ordres.
Oui.
Point à la ligne. C'est-à-dire qu'il entend que les Européens lui obéissent. Et d'ailleurs, écoutez Pete Hegseth, on l'a écouté tout à l'heure, il a dit un nouveau shérif en ville. Le shérif, on lui obéit. Il n'y a pas de sujet. Et à l'époque du Far West, si on lui obéissait pas, on était tués. Eh bien, voilà ce qui se passe. C'est le monde de Donald Trump. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est assez simple, c'est que les Européens disent si oui ou non Trump, c'est le shérif. Est-ce qu'il l'accepte comme shérif ou pas? Et s'il ne l'accepte pas, alors dans ce cas, il faut qu'ils soient ensemble suffisamment forts et qu'ils proposent une alternative, quelque chose qui ressemble aussi à un plan de paix. Parce qu'il faut quand même le reconnaître, il faut avoir une vue réaliste des choses. Le seul qui parle de plan de paix aujourd'hui, on n'en connaît pas du tout les contours, c'est Donald Trump.
Oui.
Les Européens, ils ne parlent pas de paix. Et il y a un moment donné où les Ukrainiens vont commencer à dire on préfère celui qui nous parle de paix que ceux qui nous parlent de guerre.
Alors justement, les Européens n'ont pas d'alternative, mais ils le disent, il n'est pas question qu'on fasse la paix sans nous. On écoutera Sébastien Lecornu, on revient dans moins de 2 minutes sur BFM Business pour poursuivre cette conversation. On est ensemble jusqu'à 19h dans Les Experts Sans Frontières, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Les Experts Sans Frontières. Guillaume Paul.
Allez, 18h29, on est toujours avec nos Experts Sans Frontières, comme tous les vendredis, avec Richard Verly, avec Juan Rosé Dorado, ici en plateau, et puis Benoît Ballet, bien sûr, qui est avec nous depuis Washington. Oui, il y a cette crainte qui monte depuis quelques temps maintenant, la crainte que la paix soit imposée par les Américains et les Russes sur le dos des Européens. C'est vrai que Donald Trump s'est entretenu, effectivement, on en a parlé mercredi avec Vladimir Poutine. Medvedev, le Premier ministre russe, en est pas mal amusé, on l'a entendu. Écoutez à ce sujet l'avertissement de Sébastien Cornu, le ministre français des armées, c'était hier soir chez nos confrères de BFM TV.
Un cessez-le-feu bâclé, c'est potentiellement le retour d'une guerre plus importante et qui peut nous concerner à moyen et long terme. Donc c'est pour ça aussi que nous mobilisons avec le ministre des Affaires étrangères sous l'autorité du président de la République, parce qu'il n'est pas question de se faire avoir.
Voilà, Sébastien Lecornu hier soir et son homologue allemand Pistorius est allé dans le même sens aujourd'hui. Oui, c'est vrai, l'Europe n'a rien à proposer pour l'instant, très clairement.
L'Europe n'a rien à proposer pour l'instant parce que de toute façon, depuis le début de ce conflit avec la Russie, entre la Russie et l'Ukraine, elle a toujours été derrière l'Ukraine. Elle fournit des armes, elle fournit du matériel, elle fournit des stratégies à l'Ukraine. Donc, quelque part, même si on dit qu'on est en dehors de ces conflits, on est à l'intérieur de ces conflits. Donc c'est vrai que depuis 2 ans et demi, on n'a pas proposé un plan de paix à proprement parler. Et je pense que le ministre de la Défense a raison que, en même temps, quand on dit que un arrêt de feu bâclé, ce n'est pas la garantie de rien du tout.
Ouais.
Et donc aujourd'hui, il faut faire aussi attention à ça et au fait qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des pays qui ont quand même des réticences. Aujourd'hui, vous avez l'Italie, vous avez l'Hongrie,
absolument,
qui sont d'une certaine manière pro-Trump et donc qui vont peut-être effectivement briser cette unité qu'il faudrait trouver, ouais, au sein de l'Union européenne.
Vous avez vu cette parenté qu'a fait aujourd'hui la chef de la diplomatie européenne, donc Aja Kallas, avec les accords de Munich de 38, c'est quand même, voilà, qui avait abouti à l'annexion d'une partie de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne hitlérienne. Enfin, voilà.
Ça reste
c'est un aveu de puissance quelque part, cette comparaison. Oui, so what. Voilà.
Non, mais ça reste compliqué pour les Européens. Ça reste compliqué justement parce qu'il n'y a pas cette union, parce qu'on ne sait pas vraiment où on va, parce qu'on va aller parler avec les uns et avec les autres, et on voit qu'il n'y a pas d'unité. Cela dit, je suis de ceux qui pensent toujours qu'il faut toujours regarder qu'on peut un peu en arrière vers l'histoire, parce que l'histoire nous apprend aussi des choses. Cela dit.
Oui.
Ça nous apprend des choses, peut-être aussi à ne pas commettre les mêmes erreurs.
Richard Berlich. Oui,
avec une difficulté énorme pour Aja Kallas, c'est que c'est bien joli de dire, de raviver le souvenir de Munich 1938, mais Aja Kallas, elle a une révolution culturelle à faire. Elle est totalement atlantiste. Elle a passé sa vie politique, et on peut la comprendre, en tant que femme politique des Pays-Baltes, à prendre ses ordres à Washington. Et aujourd'hui, il faut qu'elle résiste à Washington. Or, elle sait résister à la Russie. C'est ce que les Baltes ont toujours fait depuis leur indépendance, parce qu'ils redoutent une annexion à l'ukrainienne. Mais résister à Washington, elle ne sait pas faire. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'elle n'en parle pas. Donc, ça ne peut pas marcher. Il faut avoir des mots forts aussi contre Donald Trump.
Oui.
Et pour l'instant, Aja Kallas, elle n'a pas ces mots-là.
Bon, on verra s'il y aura des mots forts du côté de Munich dans quelques heures. Il y a beaucoup de chefs d'État, de gouvernement qui y sont, évidemment. J.D. Vance, Zelensky, qui sont en train de se parler. Emmanuel Macron n'est pas présent, hein.
Non, c'est à mon avis un réel, ouais, problème. Il est dans les colonnes du Financial Times, il a donné une interview, mais il n'est pas à la conférence à la sécurité de Munich. Et pour un président qui veut peser sur les affaires du monde, on doit quand même s'interroger.
Ah, il a quand même beaucoup donné en début de semaine avec le sommet de l'IA.
Oui, effectivement.
Mais effectivement, c'est une absence qui, dans le contexte actuel, alors que lui a besoin de reprendre un petit peu la hauteur, reprendre la main.
Oui, d'autant qu'au sein de l'Union européenne, oui, il faut quand même le redire, quand il s'agit de se positionner par rapport aux États-Unis, d'avoir des paroles fortes, voire, disons, désagréables pour l'Amérique, c'est souvent la France, oui, qui a ce type de paroles. Et Macron, absent de Munich, à mon avis, c'est un, oui, problème.
On suit évidemment tout ce qui se joue du côté de Munich, ce sommet où peut-être le début de l'avenir de l'Ukraine va se jouer. On verra ce qui ressort de ces discussions. On va rester sur Trump, hein, parce que Donald Trump continue de dérouler sa stratégie commerciale. Vous savez qu'il y a quelques heures, il a lancé ce qu'ils appellent cette fois une guerre commerciale contre le reste du monde, puisqu'il a annoncé la mise en place de droits de douane réciproques sur toutes les marchandises importées sur le sol américain. Benoît Ballet, on vous retrouve à Washington. En gros, ça veut dire « je vous traiterai comme vous me traitez ». C'est un peu ça, Benoît.
Oui, écoutez, le plus simple pour comprendre, c'est que je vous donne la déclaration de Donald Trump qu'il a faite depuis la Maison-Blanche. Voilà ce qu'il a dit, le président américain. Si des pays nous imposent un droit de douane ou une taxe, on leur impose exactement le même niveau de droit de douane ou de taxe. Voilà, c'est assez simple à comprendre, c'est sans équivoque. En fait, pour Donald Trump, c'est une question d'équité. D'autant plus que, d'après le président américain, les alliés des États-Unis se comportent souvent moins bien que ses ennemis. Et dans la foulée, si vous voulez, Donald Trump a signé un mémo. Dans ce mémo, il demande à ses équipes de faire une revue complète des disparités commerciales entre les États-Unis et le reste du monde pour mettre en place des droits de douane effectivement réciproques et personnalisés pays par pays. Ces conclusions lui seront confiées le 1er avril pour que le président puisse prendre des mesures dès le 2 avril. Ça, c'est ce qu'a précisé Howard Lutnick, le secrétaire d'État américain au commerce. Et l'Europe est bien dans le viseur du président américain. Donald Trump a qualifié d'extrêmement dur le comportement de l'Union européenne sur le plan commercial. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le président américain n'a pas seulement les droits de douane dans le collimateur. Il prendra aussi en compte les barrières non douanières, comme les réglementations pénalisant les produits américains ou encore la TVA que certains États prélèvent. Alors, effectivement, après les 10% de droits de douane supplémentaires annoncés sur les produits chinois, les 25% annoncée sur l'aluminium et l'acier mondial, Donald Trump poursuit sa politique économique très agressive, guidée par son agenda et un cap qu'il a qualifié et dit à de nombreuses reprises, l'Amérique d'abord, America first.
Il est en train de, effectivement, de dérouler. Vous restez avec nous, bien sûr, Benoît. C'est vrai, enfin, Benoît, il faisait allusion, ça s'appelle s'asseoir littéralement sur les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, qu'elle pèse en 2025 ? Mais alors, les règles de base de l'OMC, c'est quoi ? C'est on traite les partenaires en fonction du niveau de développement du pays pour pas créer trop de distorsions,
oui,
trop d'inégalités.
Je pense quand même que c'est maintenant un petit peu plus compliqué et habile de la part de Donald Trump. C'est parce qu'en se plaçant sur le plan de la réciprocité, c'est-à-dire si je suis taxé à 10%, je vous taxe à 10%, il me semble que ça peut mieux se défendre à l'OMC que les hausses unilatérales qu'il avait initialement décidées sur le Mexique et le Canada. Je rappelle qu'elles ont été repoussées d'un mois puisqu'il y a des négociations qui ont cours. Moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas, et il ne faut surtout pas, dissocier ces hausses programmées de droits de douane de ce qu'il va faire Donald Trump sur le plan fiscal. Parce que qu'est-ce qu'il fait ? Il va rendre plus cher le fait d'exporter vers les États-Unis. Donc, par exemple, vous produisez une voiture, vous voulez l'exporter aux États-Unis, ça va devenir beaucoup plus cher. Mais avec un dumping fiscal, il va rendre moins cher de produire aux États-Unis.
Oui.
Sous-entendu, produisez des voitures chinoises, mais produisez-les aux États-Unis, avec de l'acier américain, avec des ouvriers américains. Et ça, je pense que c'est son objectif.
Il y a des chiffres qu'il a en travers du gosier. Bon, les déficits commerciaux avec telle ou telle partie du monde. Mais globalement, le déficit commercial américain en 2024 est passé la barre des 900 milliards. Voilà, donc lui, il s'en tient aux chiffres. Oui, les vraies raisons de ces déséquilibres, c'est la puissance de l'économie américaine, par définition. Mais lui, il ne voit pas les choses comme ça.
Non, parce que c'est assez simpliste.
C'est
très simpliste.
Il a 300 millions de consommateurs riches qui consomment beaucoup, effectivement. Il a un dollar fort, c'est ça les vraies raisons.
Mais le pire de tout ça, c'est qu'effectivement, à la date d'aujourd'hui, on n'a pas encore une position commune des pays de l'Union européenne, même si von der Leyen a assuré effectivement qu'il y aura une réponse rapide et proportionnée pour la politique américaine. Mais ce qui reste à prouver encore pour les Américains, c'est que cette politique soit bénéfique aussi pour la population américaine, puisque, comme vous l'avez signalé, ils consomment beaucoup à l'étranger, mais parce qu'ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus important que d'autres pays, et donc ils importent. Ça, c'est une réalité. Donc, d'ailleurs, les économistes américains commencent à dire effectivement que cette politique, elle est simpliste et que cette politique n'apportera pas les fruits escomptés par le président américain. Cela dit, comme dans le cas du conflit entre l'Ukraine et la Russie, l'Union européenne est toujours en retard. Elle a toujours besoin de se montrer solidaire. Et encore une fois, elle ne l'est pas complètement.
L'Union européenne qui a encore dit aujourd'hui qu'elle répondrait à toute taxe réciproque, tout droit de douane réciproque et des réactions du côté du Brésil. Cela dit, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Vous avez vu qu'il y a certains pays qui serpente un petit peu, louvoie, essaie quand même de jouer la stratégie de la poignée de main avec Donald Trump. Je pense aux Japonais, aux Britanniques, essaie de mettre en avant à chaque fois le lien inaliénable entre les États-Unis et tel ou tel pays pour éviter justement la sanction suprême. Ça c'est malin, ça, hein, quand même.
Alors, c'est malin. Du côté du Japon, c'est malin avec en plus de très solides arguments.
Alors, le premier ministre japonais est allé justement faire du business, acheter du GNL en masse.
Il est clair que l'adversaire principal de Donald Trump, c'est la Chine, et l'avant-poste américain en Asie-Pacifique, c'est le Japon. Ils sont le porte-avions des États-Unis.
Donc, ils ne vont pas tomber sur le Japon, par définition.
Mais évidemment que non. Bon. Et d'ailleurs, je vous signale que le Premier ministre, si on s'en tient au propos de Donald Trump, le dirigeant avec lequel il avait les meilleures relations durant son premier mandat, c'était Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, qui a été tué, qui a été assassiné. Donc le Japon, c'est logique, ils ont la bonne stratégie. Eux, ils sont le porte-avions américain et ils vont le demeurer.
Ils ont dit, on va acheter des tonnes de GNL, des tonnes.
Évidemment. Voilà. Les Britanniques, c'est beaucoup plus compliqué. Les Britanniques, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'alors eux, ils espéraient. C'était l'espoir du Brexit. C'était on vire les Européens et les Américains et autres vont nous faire les yeux doux.
Oui.
Sauf que vous avez vu la charge de Elon Musk contre Keir Starmer, le Premier ministre travailliste.
Oui.
Le problème des Britanniques aujourd'hui, c'est qu'en gros, Trump, il dit « Moi, j'adorerais travailler avec vous, mais changer de gouvernement. »
Non, mais même sous Trump 1, du temps des gouvernements conservateurs, ils n'ont pas été capables de nouer avec l'Amérique le traité de libre-échange qu'ils espéraient nouer rapidement.
Mais parce qu'ils ont
un problème... Trump qui était là à l'époque et c'était les conservateurs en face.
Parce qu'ils ont un problème similaire que je suis sûr ici à BFM Business vous disséquez régulièrement, c'est que ce sont deux pays qui ne produisent plus ou produisent beaucoup moins.
C'était le drame du Brexit. C'était le drame du Brexit.
Un pays riche, mais l'Amérique industriellement a beaucoup perdu.
Et en même temps, peut-être parmi ces pays, on peut comprendre aussi quelque part le positionnement de l'Inde par rapport aux États-Unis. Effectivement, d'amadouer aussi en quelque sorte les États-Unis. Mais ce qui est peut-être beaucoup plus compliqué à comprendre, ou difficile à comprendre, c'est le positionnement du Brésil, qui même politiquement est complètement à l'opposé de la politique des États-Unis. Mais ça, encore une fois, c'est vrai que les États-Unis ont un pouvoir tel qu'ils sont capables, et Donald Trump est un spécialiste, d'imposer ses vues, ses déclarations à l'emporte-pièce, mais ses déclarations fortes, ses menaces, etc., font effectivement trembler un certain nombre de pays qui voient que son économie pourrait être fortement impactée, ou au moins impactée. Et donc, je peux comprendre en tant que leader politique à un moment donné qu'on réfléchisse en termes nationaux et se dire peut-être va-t-il falloir céder un tout petit peu pour ne pas se faire écraser par les Américains à un moment donné.
Ça reste là. On va retrouver Benoît une dernière fois, Benoît Ballet à Washington, qui est resté avec nous. Ça reste la vraie question existentielle, Benoît. Est-ce que Trump fait tout ça pour véritablement taxer ou pour juste obtenir des contreparties? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui encore, finalement.
Effectivement, et il y a des arguments écoutez, qui vont un petit peu dans les deux sens. D'abord, si on regarde sur le prisme, si on se dit que Donald Trump fait ça vraiment pour taxer, il faut se souvenir que pendant sa campagne présidentielle, les droits de douane, c'était vraiment son mot favori. Il a dit que c'était même son mot préféré du dictionnaire, le mot tariff en anglais. Et il expliquait à ce moment-là que ces droits de douane qu'il allait imposer à tous les autres pays allaient permettre de financer toutes ces autres mesures, et donc finalement de rendre l'Amérique plus grande, plus prospère, etc. etc. D'un autre côté, faut se souvenir que juste après son arrivée à la Maison-Blanche, l'investiture le 20 janvier, il a déjà à ce moment-là décrété des droits de douane qui visaient le Mexique et le Canada. 25% de droits de douane sur tous les produits importés de ces deux pays. Et très rapidement, on a vu des négociations et il y a eu des accords qui ont été signés. Les négociations ont abouti juste avant la date butoir. Alors Donald Trump a obtenu gain de cause sur la protection de la frontière au sud des États-Unis avec le Mexique. Le Mexique qui a accepté d'envoyer 10 000 soldats mexicains pour sécuriser cette frontière. Le Canada et le Mexique se sont aussi accordés avec les États-Unis pour investir davantage de moyens dans la lutte contre le trafic de fentanyl, vous savez, cette drogue qui fait des ravages aux États-Unis. Donc, il y a eu des choses qui ont été obtenues par Donald Trump. Alors, juste, il y a la Chine qui n'a pas cédé et qui a lancé des mesures réciproques. Mais ce qui est intéressant aussi de comprendre, je trouve, c'est que dans ce mémo qui a été signé par Donald Trump, il y a bien la notion de pays par pays. Réciprocité, certes, mais pays par pays. Et surtout, on se donne à peu près 45 jours pour décider. Ça veut dire qu'il va y avoir des marges de négociation et ça veut dire que Donald Trump et son administration attendent effectivement peut-être aussi de voir les réponses de leurs alliés pour essayer de tirer un petit peu toujours le meilleur de ces relations qui, on le comprend et on le sait avec Donald Trump, une relation c'est avant tout un bras de fer et des négociations possibles pour tirer le meilleur de son adversaire ou de son ami.
On y verra plus clair effectivement d'ici quelques semaines voire quelques mois. Merci beaucoup Benoît, on vous libère, on vous remercie d'avoir été avec nous. Benoît Ballet en direct de Washington avec nous ce soir dans Les Experts sans frontières, 18h45. On revient dans 30 secondes messieurs et puis il nous reste une dizaine de minutes ensemble pour parler de quoi? Du sommet de l'IA, on va se faire un peu plaisir parce que ça a été le temps fort de la semaine. Et puis alors ce débat sur le fait de savoir si ce qui se passe chez vous en Espagne est une vraie remontada ou peut-être pas tant que ça finalement, Juan Rosé, on voit tout ça dans quelques instants. A tout de suite.
Les Experts sans frontières sur BFM Business.
Allez, 18h46, encore quelques minutes avec nos experts Richard Verly, Juan Rosé Dorado avec nous en plateau. On voulait dire un mot quand même parce que ça a été le temps fort de ce début de semaine, le sommet de l'IA à Paris, bien sûr, avec un Emmanuel Macron en VIP de la tech française, de l'IA française, européenne. Et qu'il a dit, il n'a pas eu raison de le faire finalement. Ce qu'on a fait avec Notre-Dame, il faut le faire au niveau français, européen en matière d'intelligence artificielle. Écoutez.
Ce sommet n'est pas seulement l'annonce d'un grand nombre d'investissements en France. C'est un appel au réveil pour une stratégie européenne. Nous allons adopter la stratégie Notre-Dame de Paris. Nous allons montrer au reste du monde que quand nous nous engageons à respecter un calendrier précis, nous pouvons le faire. Vous décidez, vous rationalisez toutes les procédures, quelqu'un est responsable et vous le faites. Donc l'approche Notre-Dame de Paris sera adoptée pour les data centers, pour les autorisations de mise sur le marché, pour l'intelligence artificielle et pour l'attractivité. Dépêchons-nous, il le faut.
Ah ben alors, il tourne de son privé, forcément, Juan José.
Je souris parce que il a de la suite dans les idées. Déjà en 2018, il avait annoncé effectivement qu'il allait faire de l'intelligence artificielle, de l'investissement en intelligence artificielle, quand même un vecteur important de la politique française. Et donc, il a de la suite dans les idées avec ce sommet qui a été organisé à Paris. Après, la réalité est complètement différente. C'est-à-dire que entre la Chine et les États-Unis, les Européens ne font pas le poids pour l'instant. Et je ne vous dis pas la France toute seule. Quand vous voyez qu'effectivement les États-Unis parlent des 500 milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle et que dans des pays, encore je me réfère à celui que je connais le mieux, que c'est l'Espagne, vous dit que l'investissement pour les deux prochaines années, ça va être d'un milliard et demi, ben vous voyez tout de suite que nous ne jouons pas dans la même catégorie. Donc c'est bien effectivement que Emmanuel Macron prenne ça à bras le corps et qu'il essaye de tirer l'Europe vers le haut. Je pense que ce sommet a été, entre guillemets, une réussite parce que ça fait prendre conscience à la société, aux différentes sociétés européennes, que c'est important d'investir. Maintenant, il va falloir récupérer cet argent, comme il essaye de le récupérer depuis quelques années, avec ses sommets du côté de Versailles.
Mais comme Trump n'a pas encore fait la lumière sur le financement des 500 milliards du fameux plan Stargate, comme l'Europe, alors il y a 109 milliards d'euros d'investissement au niveau français, 200 milliards a dit von der Leyen au niveau européen, alors 50 pour l'UE, 150 milliards venant de grands groupes privés. Bon, est-ce que vous dites les 200 milliards de von der Leyen, ça vaut bien proportionnellement les 500 milliards de Trump du projet Stargate, Richard Verlet?
Potentiellement, oui. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans cet extrait, c'est que vous avez deux stratégies aujourd'hui. Vous avez la stratégie tarif-shérif, c'est celle de Trump. Ouais. Là, c'est du concret. Trump, c'est très concret. C'est des tarifs, le shérif. Macron, c'est Notre-Dame de Paris. Que je sache, Notre-Dame de Paris, c'est quand même beaucoup plus virtuel, même quand on l'entend. Alors, on a bien compris que le chantier français, il a eu lieu.
C'est une belle réussite. Enfin, oui, mais sauf logistique, que, c'est d'une efficience.
Oui, mais sauf qu'en France, il a la capacité, et il l'a exercé, et ça a marché, de nommer un chef de chantier, de faire tenir des délais, mais au niveau européen, ne nous leurrons pas, il l'a pas, Emmanuel Macron, cette capacité. C'est pas lui qui va nommer le chef de chantier. Et c'est pas parce qu'il y aura un chef de chantier.
Mais c'est pas von der Leyen non plus, hein.
C'est bien le problème. Je suis pas sûr que la stratégie Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire on abandonne les processus habituels, on se coalise autour d'un chef, soit la bonne au niveau européen, compte tenu de ce qu'est l'Union européenne. Je crois que la vraie chance de l'Europe aujourd'hui, elle est ailleurs, et c'est ça. C'est qu'il y a des talents, il y a d'abord des données à protéger, d'urgence, protéger. Je signale quand même que le Parlement européen a signé un accord, là, il y a quelques semaines, avec une société américaine, Anthropix, pour gérer tout son système de traduction. Protéger les données européennes, ça, c'est absolument urgent. Et ensuite, identifier toutes les start-up dans les 27 pays de l'Union, et d'urgence, leur donner des financements. C'est-à-dire, au fond, les Américains, ils sont très forts pour faire du top, bottom, de haut en bas. Il faut que l'Europe, elle fasse du bottom-up, de bas en haut.
Ce qui est intéressant sur ces sujets, c'est justement le fait que ça, c'est du virtuel. Il faut récupérer de l'argent, il faut convaincre les gens d'investir. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus réel, c'est qu'il y a des sondages qui apparaissent dans différents pays. Et par exemple, en Espagne, vous voyez que cette année, 80% des entreprises espagnoles déclarent qu'ils vont investir dans des outils liés à l'intelligence artificielle. Donc, si
En France, vous avez 84% des PME qui vous disent « j'ai jamais utilisé un outil d'intelligence artificielle ».
Et au même temps, en Espagne, vous avez 80% des entreprises qui disent « on va investir dans l'intelligence artificielle ».
Oui, mais pour faire quoi? Enfin, voilà aussi, c'est les fameux cas. Alors, on a eu tout un débat sur le terme de cas d'usage cette semaine.
Si vous investissez, il y a de l'argent. S'il y a de l'argent, il peut y avoir des investissements derrière aussi.
Oui, et puis avec une difficulté pour la France qu'il faut bien avouer, c'est que si vous appliquez l'intelligence artificielle, par exemple, à l'industrie, en termes rationnels, il vaut mieux l'appliquer en Allemagne aujourd'hui. les usines allemandes, elles sont plus performantes, elles sont plus robotisées, et donc ce serait plutôt l'Allemagne qui profiterait d'un grand boom européen de l'intelligence artificielle. C'est ça la difficulté en Europe, c'est comment on fait pour choisir qui va profiter de quoi. Désolé de le dire, mais si on veut vraiment répondre à la poussée de Donald Trump, il faut avoir un esprit fédéral européen. C'est la seule solution. Et cet esprit fédéral, il est pour l'instant pas au rendez-vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le créer, on ne peut pas s'y atteler.
Mais il faut attendre quoi pour qu'on en arrive là, pour qu'on fasse le grand saut, Richard? Je vous entends parfaitement, mais qu'est-ce qu'il
faut? Moi, je pense qu'il faut deux choses. D'abord, il faut qu'il y ait une incarnation. On ne l'a pas ici. Il faut un Elon Musk. Pour dire Elon Musk, pas dans le tempérament libertarien, autoritaire, copain de l'extrême droite allemande et de l'extrême droite britannique. Il faut quelqu'un comme ça, qui incarne ça.
Quelqu'un dont le nom résonne aussi bien du côté des Français que des Allemands, que des Italiens. Vous vous rendez compte un petit peu de l'ampleur?
Ça existe au Japon. Il y en a un au Japon, Masayoshi Son, d'ailleurs, Japon, qui investit avec les Américains. Oui, je sais, mais il faut passer par ça. Il faut une très forte incarnation. Et surtout, il faut une priorité. La priorité aujourd'hui, c'est protéger les données européennes. Oui. Ce continent est un trésor de données que les GAFAM moulinent et exploitent en permanence.
Évidemment, en série. Il nous reste quelques minutes pour dire un sujet de chez vous, Juan Rosé, de l'Espagne. Voilà, ce sont nos confrères des Échos qui évoquaient le sujet ce matin. Alors qu'ici, vous savez, on a beaucoup parlé de la réussite espagnole, 3,2% de croissance l'an dernier, 1 million d'emplois créés en 2 ans. Mais on a un Pedro Sanchez qui rappelle les Échos, est incapable depuis 2 ans de faire approuver son budget, d'où une paralysie qui finit par ralentir quand même la modernisation du pays. Il n'y a pas que les Échos qui le disent. Tiens, je vous fais écouter Mariano Rajoy, qui est l'ancien Premier ministre espagnol, qui disait, oui, de mon temps, ça se passait beaucoup mieux, forcément.
J'ai été Premier ministre pendant 7 ans, avec et sans majorité, 7 ans et 7 budgets approuvés. Jamais un budget n'a manqué. Et quand il n'est pas possible de faire approuver un budget, il faut dissoudre et rien d'autre. Cela a toujours été fait de cette façon et partout. Nous l'avons vu récemment dans certains pays européens.
Voilà, un bon entendeur.
Oui, non, mais
il a raison, Rajoy.
Factuellement, il a raison. Il n'avait pas de majorité. Il a réussi à faire approuver tous les ans le budget, ce qu'il est incapable de faire aujourd'hui, Pedro Sanchez, puisque on est en train de fonctionner en 2025 avec les budgets des 2023. Donc, vous voyez, effectivement, il y a une grosse différence.
Vous savez
après,
quoi, quelque part, ça nous rassure quand on
ça vous rassure.
Finalement, quelque part. Finalement.
Le modèle espagnol.
N'est-ce pas?
Mais, voilà. Mais il n'y a pas. Je suis désolé.
Oh, ça
vous
va
m'aviez déjà posé cette question il y a quelques semaines. Je pense qu'il n'y a pas de modèle espagnol, c'est-à-dire qu'il y a une réussite macroéconomique qui est réelle, mais après, dans la rue, dans le quotidien des Espagnols, il y a énormément de difficultés. Quand vous voyez effectivement la croissance du PIB espagnol est importante, mais la croissance des individuelle en Espagne est au même niveau qu'en France.
Mais alors pourquoi vous faites 3,2% de croissance alors que nous, on nous explique depuis des mois que tout est paralysé en France, que tout s'arrête? Alors
déjà, la première des choses, c'est qu'on profite, comme tous les pays, mais l'Espagne particulièrement des fonds structurels, des cohésions qui ont été approuvés. L'Espagne a touché près de 50 milliards déjà de ce fonds-là. Et puis, il y a aussi l'énergie espagnole, par exemple, qui a pesé lourdement sur tous les budgets dans tous les pays. En Espagne, 56%, ce sont des énergies renouvelables, donc beaucoup moins chères que dans d'autres pays. Et puis...
Et le gaz, la dérogation que vous avez obtenue pour le gaz au niveau européen.
De façon générale, effectivement, pour les gaz. Donc, effectivement, il y a des réalités, mais la réalité, c'est aussi que c'est après le Covid, l'Espagne a eu besoin, le gouvernement socialiste a eu besoin de subventionner le transport. D'ailleurs, on va continuer à subventionner le transport pour les Espagnols parce que sinon, ils ont du mal à payer le transport. Mais par exemple, l'exonération des TVA sur les produits des premières nécessités disparaît. L'exonération, justement, sur l'énergie va disparaître. Et là, on verra dans les prochains mois, effectivement, si le niveau de vie des Espagnols va augmenter ou tout le contraire, va descendre un tout petit peu. Donc, séparons la macroéconomie qui marche très bien en Espagne, et séparant l'économie quotidienne des foyers qui n'arrivent pas à se loger parce qu'ils n'arrivent pas à payer des loyers ou à acheter des appartements.
Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de cette affaire, Richard, en une minute?
Je pense que d'abord, l'Espagne a aussi la chance d'avoir encore une forme d'économie informelle, touristique, qui marche bien, qui est beaucoup moins rigide qu'en France. Et puis l'autre chose, l'Espagne sait, et ça c'est bravo, extraordinairement bien dépenser l'argent européen. Dépenser au sens l'investir. En France, on le reçoit, mais on sait mal le dépenser. Et ça, il faudrait clairement se pencher sur la manière dont le plan Next Generation EU, le dernier, les crédits attribués à la France, ont été en partie non encore investis en France, alors qu'ils l'ont été en Espagne.
Oui. Et chez vous, en Suisse, il n'y a pas ce problème.
Eh bien non, puisqu'on est à peu près à 40% voilà. du PIB pour la, voilà. Pour la dette. Et que
d'un seul coup, là, d'un seul coup, l'enthousiasme...
On s'achemine vers une croissance d'à peu près 2%. Et déjà, le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement, ouais. anticipe des coupes budgétaires en prévision d'un endettement excessif. Je rappelle le chiffre, 40%, la France, 115%, l'Espagne, je ne sais pas trop.
Légèrement, 112-113%, l'Espagne est descendue ouais, ouais. par rapport à la France.
Mais ce n'est pas parce qu'on est frugal qu'on a raison.
Absolument, ça c'est par définition. Bon, pour l'instant, ça tient, vous ferez combien de croissance cette année, vous, en Espagne vous ferez,
donc, un peu plus de 2,5%, on est en train de taxer sur les 2,5%. Cela dit, effectivement, le risque en Espagne, c'est aujourd'hui d'avoir un gouvernement des coalitions qui n'est pas majoritaire ouais. et qui est obligé de négocier et chaque loi, chaque décret pour pouvoir continuer à gouverner.
Bon, il faut tenir. Mais l'expérience montre qu'on peut avoir de la croissance malgré de l'instabilité politique et de l'incertitude fiscale, tout ce qui va avec. On retiendra ça comme point positif malgré tout. C'est terminé pour ce soir. Merci messieurs d'être venus. Richard Verli, correspondant du journal suisse Blick à Paris. Juan José Dorado, journaliste espagnol basé à Paris également. Merci beaucoup messieurs, à très vite pour nouvelles aventures. On remercie Benoît Ballet, bien sûr, qui était avec nous depuis Washington. 18h57, dans 2 minutes 19h, je vous redonne les grands titres de l'actualité. Puis sinon, bien sûr, on se retrouve lundi, 18h, pour le 18h Echo pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, bon week-end sur BFM Business, à lundi.
Les experts sans frontières sur BFM Business.